une émission pour écouter des autrices et des auteurs qui nous éveillent. La nouvelle bouquinerie, présentée par l'écrivaine et poétesse Mirle.
Une sœur sudoku. Nos passe-temps deviennent parfois des passe-partout, des portes dérobées, des cachettes, des lieux d'heures à tenter de deviner où est le loup. Ce n'est pas là une préoccupation de l'autrice, écrivaine, poétesse que j'accueille ce soir. Aujourd'hui, c'est un hippocampe qui se pose en nous grille lecteur pour embrasser la nuit. Il s'agit d'une quête d'amour de la narratrice qui va tomber amoureuse d'un hippocampe, un saut dans l'étrange et la fantasmagorie pour embrasser le merveilleux. J'ai fait une présentation biba. Séverine, bonsoir.
Bonsoir.
Donc on va parler du roman Le Monsieur, paru aux éditions d'Alva. On va parler de traduction, qui est l'une des questions centrales du livre. On va pouvoir en parler, qui est l'une aussi de tes activités. Mais avant de commencer, je voudrais vous parler à toutes et tous d'un recueil de poèmes d'Angela Duval, une poétesse bretonne qui vient de sortir au Sombre Torrent, s'appelle Le Brûle Fougère. Il est question d'un travail important pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont amateurs de poésie. C'est avant tout une question d'une traduction inédite que ce recueil, de près de 80 poèmes écrits entre 1961 et 1980. C'est d'autant plus nécessaire de lire pour ceux qui aiment la poésie que ça résonne avec nos préoccupations brûlantes d'aujourd'hui. Ça nous offre une vision précoce de ce qu'on pourrait déjà appeler l'écologie poétique. Est-ce que tu connais Angela Duval ?
Je ne l'ai pas lu. Non, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir ajouter quoi que ce soit.
Donc au Sombre Torrent, sache, tu vas pouvoir en tout cas en profiter d'une traduction d'une langue que je crois que tu ne traduis pas, qui est le breton.
Non.
Tu en traduis d'autres. C'est une question assez importante qui apparaît dans le roman. En tout cas, moi, j'ai été happée par cette notion de cette traduction. La narratrice, en tout cas, arrive en résidence. Une amie, qu'on appelle mon amie, qui doit venir te rejoindre, elle ne vient pas. Donc là, c'est le début du livre. Et patatras, normalement, c'est pour une traduction, si j'ai bien compris, commune.
Oui, oui. Elles co-traduisent un texte écrit dans une langue dont on sait qu'elle est rare. On ne sait pas trop quelle elle est. Mais voilà, elles font ça à deux. Et mon amie donc ne vient pas, ce qui met tous les projets à mal et ce qui confronte cette traductrice dont on sent qu'elle a aussi des velléités d'écrire. La confronte un peu à elle-même et au fait que là, elle a enfin du temps et qu'il faudrait qu'elle écrive, mais qu'elle n'y arrive pas.
Alors, est-ce que la réalité rejoint la fiction ou la fiction rejoint la réalité ? Là, tu as utilisé pour ce livre une citation de Virginia Woolf pour commencer. Et est-ce que tu pourrais nous la rappeler ?
Alors, je ne m'en souviens plus en des termes exacts parce qu'en plus, j'ai hésité entre plusieurs traductions, mais c'est en gros, rien n'existe tant que je ne l'ai pas écrit. Enfin, c'est très simplifié dit comme ça, mais c'est... Rien n'existe avant que je ne l'écrive, ou voilà. Comme si l'écriture avait le pouvoir de faire exister les choses.
Je suis faite de telle sorte que rien n'est réel que je ne l'écrive. Donc la double négation, tu viens de nous la traduire, ça est plus facile pour le comprendre. Alors du coup, Séverine, de ceux qui aiment la poésie, ceux qui aiment lire, te connaissent en tant que poétesse, en tant que traductrice, notamment de Sion. Premier roman.
Ouais.
À quoi ça correspondait comme envie pour toi ?
L'absence totale d'envie. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvée dans une situation assez proche de la narratrice. Après, il y a aussi énormément de points de différence entre elle et moi. Mais je me suis retrouvée dans une résidence d'écriture à laquelle j'avais été invitée un an auparavant. Et je n'avais plus aucun projet d'écriture. Ça découlait probablement de l'écriture de mon précédent livre qui venait clore une longue quête à travers la langue. C'est un livre sur l'inceste qui s'appelle Décharge, que je n'avais signé que de mon prénom. Et suite à l'écriture de ce livre, je me suis dit je n'écrirai plus. En tout cas, je n'écrirai plus de poésie. Je n'en ressentais plus le besoin. Et j'avais cette résidence prévue de longue date à laquelle je ne voulais pas renoncer. Et la résidence a commencé, il pleuvait. Je ne pouvais même pas aller me promener. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de mon temps ? Et en fait, je crois que ce texte qui s'appelle Le Monsieur, donc ce roman, m'a traversée, qu'il a beaucoup été initié par les lieux, la force des lieux dans, la, dans lequel je faisais cette résidence, c'était un lieu près de Metz qui s'appelle le château de Pange. Donc c'est un château qui est aussi un ancien orphelinat qui a les pieds, qui baigne dans une rivière. Et en fait, c'était comme un décor. Et c'est ce décor qui probablement m'a fait rêver. Et ce livre, je l'ai écrit comme on transcrirait un rêve éveillé. C'est-à-dire que je n'avais aucune intention d'écrire quoi que ce soit. Je n'avais pas de projet d'écriture. C'est d'être confrontée à ce vide et à ce lieu qui fait que tout à coup a surgi cette histoire, ce début d'histoire. Et j'ai tiré son fil quotidiennement de manière très linéaire en me disant à chaque fois qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer demain. Mais je ne savais pas ce que j'écrivais, je ne savais pas ce que je voulais dire, je ne savais pas si ça allait se construire d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était vraiment une transcription de quelque chose. Comme un rêve ou comme une bouffée délirante, mais qui aurait été contenue par l'écriture. J'ai pas déliré, j'ai écrit, mais quelque chose m'a traversée.
Alors moi, j'ai un ami africain qui est dramaturge, qui s'appelle Dieudonné Nyanguna, qui dit « Quand les morts viennent te voir et qu'ils veulent que tu écrives leur histoire, fais-le. » Est-ce qu'on est dans quelque chose comme ça, tu penses ?
Peut-être, parce que je pense que ce livre est le pendant vivant ou l'espèce de signe vers la vitalité de quelque chose qui a été, en tout cas, la fin de la mort, ou la fin de quelque chose de très mortifère. Donc, je ne sais pas si c'est des morts qui sont venus me visiter, mais quelque chose du côté de ce qui est fini, en tout cas, a trouvé un nouvel essor dans le texte.
On va continuer à en parler juste après « Would I Lie to You » de Charles Eddy.
Oh,
Et c'était Charles et Eddie, Lie to You.
La nouvelle bouquinerie, Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours ensemble avec Séverine, Séverine Daucourt, pour son premier roman, Le Monsieur, paru aux éditions d'Alva. Donc là, j'ai la couverture devant moi. On a un charmant petit hippocampe avec un chapeau haute forme et un petit nœud au niveau de ce qui pourrait correspondre au cou d'un hippocampe. Comment tu as travaillé sur la description de l'hippocampe? Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de descriptions. Est-ce que tu as fait un travail, du coup,
de recherche.
De recherche sur tout ce qui a lieu à la vie des hippocampes?
Oui, je me suis plongée. J'ai regardé des documentaires, j'ai épluché des encyclopédies, des reportages, des articles en ligne un peu sur toutes les dimensions de la vie des hippocampes. En fait, le personnage du monsieur, donc cet hippocampe qui n'est en fait pas un hippocampe, c'est une chimère. Enfin, c'est moitié cheval, moitié poisson. Donc c'est vrai que sur la couverture du livre, il est représenté par un hippocampe, par l'animal hippocampe, mais c'est un peu plus complexe. C'est vraiment une créature qu'elle trouve, cette narratrice, dans la rivière. Et bien plus grosse, même quand elle la trouve, bien plus grosse qu'un hippocampe, c'est à peu près la taille d'un chaton, avec le haut du corps comme ça, qui a l'air d'être un fœtus de cheval, et le bas du corps, une queue d'hippocampe, quelque chose du côté du poisson. Et donc c'est quelque chose qu'on pourrait se figurer dans les chimères antiques, sauf que c'est un petit animal bien réel, mais qui n'existe pas, enfin qui n'est repéré dans aucune nomenclature. Et dont elle ne sait pas, la narratrice, qu'en fait il va grandir bien au-delà de ce qu'elle présume, et que le fait de le recueillir au départ seulement pour l'analyser et essayer de voir ce que c'est, finalement ça va complètement transformer sa vie, parce que cette créature finit par atteindre la taille d'un adolescent humain, d'un jeune homme. Et qu'elle finit par le baptiser monsieur, alors même que c'est un animal qui n'est même pas un animal. Enfin voilà, elle se trouve en compagnie d'une chose bizarre, animale et grande, aussi grande qu'elle, au moins.
Bon, bah là, moi, je pense que les auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui nous écouteront au podcast ont plus d'éléments pour comprendre cette fantasmagorie, cette chimère, comme tu l'as si bien définie. Moi, il y a quelque chose que j'ai adoré hier après-midi quand je l'ai lu, c'est le dictionnaire qui est ajouté à plusieurs passages. Est-ce que tu as toi-même un dictionnaire personnel que tu tiens, qui redéfinit, comme Ponge l'a fait ou comme d'autres l'ont fait, qui redéfinit les termes?
Je pense que j'ai depuis l'enfance, recours au dictionnaire, tout le temps, quel qu'il soit. Alors, j'ai pas un objet dictionnaire que j'ai gardé, j'en change. Mais en tout cas, le recours à la définition, ou à l'explication, ou à, que ce soit pour le sens des mots, mais que ce soit aussi pour tout ce qui est du côté scientifique. Moi, je fais énormément de recherches. Enfin, j'aurais rêvé être médecin. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça du côté de l'anatomie qui me fascine complètement. Donc je vais beaucoup en fait quêter des descriptions, des définitions, des précisions en fait. J'en cite pas mal dans le livre. Alors c'est des citations plus ou moins arrangées. Elles sont pas forcément littérales ou exactes, mais en tout cas c'est ce point de vue de peut-être de l'anatomie ou de la science ou de la science du langage qui m'intéresse.
En tout cas, ta science du langage, ton amour d'anatomie, il est drôle. Moi, j'ai ri beaucoup. En fait, on passe à travers quand même une marée de sensations assez importantes à travers la vigueur du texte en lui-même, mais aussi quant à la sensation de l'étrange, hein, qui est une sensation à part entière de lecteur et aussi de créateur. Et c'était un étrange que j'ai senti très au niveau de l'estomac aussi, cette créature quand même. On sent que ça a un petit peu, pour être un peu trivial, un peu la gerbe. Il y a quelque chose comme ça qui est assez chargé. Et par ailleurs, on ne tombe pas avec ça, on n'est pas mal pour autant. Cette créature, est-ce que tu es d'accord pour la nommer comme ça? Est-ce que, on va faire le jeu comme quand on est enfant, est-ce que tu penses que c'est un peu le décalque de ce que pourrait être une sexualité hermaphrodite en fait?
Peut-être qu'il y a vraiment de ça, parce que je me suis beaucoup posé la question du genre de cette créature, du genre de la narratrice. On a un mâle et une femelle, en fait. Enfin, on a une femme qui tombe amoureuse d'un mâle. Et je ne savais pas, en fait... Il y avait dans ma pensée, je pense, quelque chose qui n'était pas genré. C'est-à-dire que l'animalité, pour moi, elle était pas genrée. Elle était du côté de l'humain, de l'animal, de l'homme, de la femme. Et j'avais envie que circulent toutes ces identités dans cette dyade, narratrice, créature. Après l'hermaphrodisme, je ne sais pas, c'est quand j'ai creusé la question des hippocampes et que je me suis rendu compte que c'était les mâles qui portaient les petits, par exemple. Enfin, voilà, tout s'interpénétrait un peu. Et ouais, ça a à voir avec l'hermaphrodisme, mais je ne l'avais pas anticipé.
Mmh. Oui, tout comme tu nous le disais tout à l'heure, t'as pas écrit, tu t'es pas mis à la table de travail en disant « je décide avec mes préfrontaux », tu t'es laissé faire parce qu'il venait.
Ouais, puis je voulais pas raconter une histoire d'amour, enfin je voulais rien raconter du tout, mais en tout cas si je voulais raconter une histoire d'amour, c'était pas entre des personnages attendus, un couple, quel qu'il soit, un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme, enfin je voulais... une histoire de désir, en fait. Je voulais une histoire de désir et d'animalité. Une histoire hors de la langue aussi. Une histoire qui redonne aux mots leur place aussi. La place des mots dans la relation. Voilà, c'est des questions, je pense, fondamentales pour moi, en fait. Ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, le pouvoir de la parole, la malédiction de son absence. Enfin, voilà, toutes ces questions... Je les ai attrapés dans le récit.
Mmh. Alors, cet hippocampe ne parle pas. Mmh. Est-ce que c'est peut-être là son intérêt pour qu'il élucubre un autre langage, mais je n'ai pas sous-pesé mon terme puisque je n'ai pas assez travaillé le livre, mauvais élève. Mmh. Mais c'est ça qui me vient ce soir.
Au début, c'est génial qu'il ne parle pas parce que du coup, c'est un être qui est tout à l'écoute, en fait, qui peut tout entendre, qui a... Et la narratrice a l'impression qu'elle a jamais été aussi libre d'être elle-même, de dire ce qu'elle sent, de dire ce qu'elle pense. Elle est dans quelque chose comme ça de complètement unilatéral, mais peut-être n'a-t-elle pas été beaucoup écoutée ou entendue dans son histoire ou dans sa vie précédente. En tout cas, dans cette écoute sans limite, elle en jouit de cette écoute, en fait. Elle s'épanouit dans cette écoute jusqu'à se retrouver dans l'impasse, en fait, de l'absence de réponse de l'autre, et jusqu'à trouver que le silence de cette créature est au contraire insupportable, jusqu'à avoir besoin de la manifestation de l'altérité à travers la langue, parce qu'en fait cette créature est vraiment autre, c'est un autre, mais qu'est-ce qu'un autre qui ne signifie rien ou qui ne parle pas, enfin c'est, voilà. Ça la renvoie aussi à ce qu'elle dit. Et elle en décompense, en fait. C'est-à-dire que ça la rend un peu folle, finalement, d'être face à tout ce qu'elle dit, sans réponse.
Oui, une question que je me suis posée, qui est plutôt une affirmation au départ, c'est que je me suis dit, tiens, on a un objet hybride qui aurait pu être créé par Kafka et Anaïs Nin en même temps, avec bien sûr les références à Gregor Samsa, qui donc se transforme en un insecte, donc là c'est pas un insecte, c'est une chimère. On a un rapport à la sexualité, au sexuel en général, et quand même je me suis dit, mais dis donc, personne n'avait tenté ça encore aujourd'hui. J'ai vraiment eu l'impression de personne n'avait fait ça avant toi. Enfin, et maintenant, il y a un avant, un après pour la considération de à la fois l'objet psychique, sensoriel et littéraire. Et je me dis, on a trouvé un carrefour dans cet ailleurs. Et en même temps, je me suis dit, mais on n'est pas dans une facette de conscience. Hein, on sait que Virginia Woolf, qui est une femme qui t'importe, elle travaille comme ça, notamment dans les vagues, avec six personnages qui sont des facettes de conscience. Là, j'ai cherché, j'ai creusé. Je me suis dit non, c'est pas le bon tamis pour essayer de filtrer ça. Est-ce que toi-même, tu as essayé d'analyser ton texte? Est-ce qu'il est clair pour toi?
Non, il n'est pas du tout clair. En revanche, j'ai accueillit avec, avec surprise, avec, avec joie les interprétations de certains lecteurs, lectrices. Et j'en ai eu de tellement variées. Enfin, c'est-à-dire, c'est allé de l'incommunicabilité entre les hommes et les femmes, la passion amoureuse, la relation analyste-analysant, enfin, le rapport au désir, la mutation, la ménopause. Enfin, voilà. Et en fait, toutes ces interprétations me vont. Moi-même, j'en trouve d'autres. Enfin, j'en trouve d'autres. Il y en a une qui récemment m'est apparue. Je me suis rendu compte que, quand même, il s'agit d'un hippocampe, même si, comme je l'ai dit, c'est pas exactement un hippocampe. Et je me suis rendu compte il y a quelques jours que l'hippocampe, c'était la zone du cerveau où logeait, on peut dire, la mémoire. Et voilà. Et tout à coup, un sens nouveau a encore jailli. Où je me suis dit, mais en fait, c'est aussi un livre sur les effets de la mémoire retrouvée. C'est-à-dire quand cet hippocampe disparaît, la narratrice réapparaît.
Et on poursuivra notre échange sur l'hippocampe, parce que moi, quand il était question d'hippocampe, j'y pensais en premier, que c'était une partie du cerveau. En attendant, on va écouter « Nothing Compares to You » de Sinéad O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. All died in the wind away.
Et c'était Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.
La nouvelle bouquinerie, Radio Campus Paris.
Et on va écouter le petit coin lecture, c'est le rendez-vous pour que les enfants lisent, en tout cas les grands qui aiment toutes les histoires aussi, ça marche. On va parler de Moshi Moshi de Stéphanie Kao, paru aux éditions Grasset Jeunesse.
Les filles, c'est l'heure du petit coin lecture.
J'arrive. Allez les crocros, les crococos, les croconiques, le petit coin lecture sur les bords de la littérature. On parle de quel livre aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on vous parle de
Moshi Moshi
de Sandrine Kao. Un jour de grand vent, des grains de riz se sont envolés. Des roches sont tombées. La rosée a perlé. Le soleil a brillé.
Et les mochi sont nés.
Dans la famille des amis mochi, je demande
le vert,
matcha,
le orange,
raka,
le rouge,
anko,
le violet,
taro,
le noir,
kuro.
Matcha, raka, anko, taro et kuro sont de drôles de petits personnages. On suit les aventures toutes simples des cinq amis et surtout, on s'intéresse à leurs émotions. Ce qu'on aime au petit coin lecture.
On aime le tout plein d'émotions.
On est habitué aux histoires où chaque personnage incarne une émotion. Ici, ce serait plutôt un mélange d'émotions que ressent chaque personnage.
Matcha est à la fois calme, content, puis soudain stressé quand les choses ne se passent pas comme il le veut.
Raka est joyeux, fier de son invention, et puis honteux quand les fourmis se moquent de lui.
Anko, plutôt énervé, se met en colère, mais se montre aussi confiant et courageux.
Taro est inquiet, voire carrément apeuré à un moment. Mais ses amis le rassurent et le voilà plus serein. On aime tous les personnages de l'histoire.
Il y a les mochi et aussi
le crapaud qui dérange Matcha dans sa préparation du thé.
Les fourmis qui se moquent de Raka.
Les fleurs.
Pivoine.
Belle tenue.
Personnage.
Hibiscus.
Et tout ce petit monde parle.
On aime l'histoire de Kuro, le mochi noir.
Ce soir, Kuro Mochi broie du noir. On ne sait pas vraiment pourquoi.
Que se passe-t-il, Kuro ?
Demande Anko.
Kuro ne veut pas parler.
Précise la pierre. Ah oui, on a oublié de dire que dans les personnages, il y a une pierre qui parle.
Normal, quoi.
Rien ne peut réconforter Kuro.
Kuro, regarde comme tout est joli autour de nous.
Kuro ne voit plus ce qui est beau. Pourtant, derrière les nuages, les étoiles brillent.
Regardez une étoile filante.
Kuro est toujours un peu triste, mais à présent, sa peine est colorée d'étoiles et de lumière. Ouf, enfin une histoire où on ne sort pas de la tristesse comme par magie.
On n'est pas des machines, quoi.
Non, on est des mochi.
C'était le petit coin lecture avec
Julie,
Mathilde
et Marie, aujourd'hui avec
Moshi Moshi
de Stéphanie Kao, un livre paru aux éditions Grasset Jeunesse en 2026.
Et c'était la dernière chronique de l'année du petit point de lecture. On espère qu'on les retrouvera l'année prochaine. Séverine, si tu es d'accord, on va pouvoir écouter ton texte. Alors, ce n'est pas un texte de poésie, mais donc j'imagine qu'il y a moins la notion de voix et encore que. On va t'écouter pour un extrait de Le Monsieur, paru aux éditions d'Alva.
Il s'agita en me voyant entrer. J'eus un choc en constatant l'inadéquation des lieux à sa motricité. J'entrais dans une panique inopinée. Que faire de cet animal, cette moitié de poisson, cette moitié de cheval? Je ne pouvais plus m'en débarrasser. Je n'en avais nulle envie de toute façon et sans doute m'aurait-on contrainte à définitivement m'en séparer pour l'analyser. Il aurait fini empaillé au musée. Monsieur n'était pas un monstre, c'était mon petit cheval marin adoré. Je le saisis sous les aisselles, là où s'enracinaient ses nageoires, pour le soulever. Il était lourd, bien plus massif en définitive que je ne l'aurais imaginé, inconsciente que j'avais été de sa façon discrète de bien profiter. Sans doute pesait-il le poids d'un enfant d'une dizaine d'années, environ 30 kilos, et quand je le portais, Sa queue touchait mes pieds. Alors que j'étais là, trempée, à réfléchir à un endroit où le déposer, je sentis ses deux membres palmés me serrer. Il s'agrippait à moi. Cette étreinte me troubla au point que j'eus du mal à respirer. Je le fis basculer, le transbahuter, comme une princesse ou un malade, et je descendis les escaliers, ouvrant la baie vitrée avec les orteils, supportant le poids vif, manquant de tomber, avant de m'aventurer, suivant mon seul instinct, dans le jardin. La mare, au fond, dans l'autre partie du terrain, semblait nous appeler. En arrivant au bord de l'eau, je m'accroupis et ne pus que laisser glisser monsieur dans l'herbe, avant de le pousser, des mains d'abord, puis du pied, jusqu'à ce qu'il pût plonger. Je retins mon souffle jusqu'à sa remontée, le regardant dans l'obscurité, s'ébrouer en se propulsant parfois hors de l'eau, dressé fièrement dans l'ombre qu'il contaminait de sa nouvelle ébriété. Il se mit à hennir et fut lui-même étonné du cri, de son intensité. Jamais un tel volume vocal ne lui avait été donné. Riant de son exubérance enfantine, je lui dis de se taire, de peur que les voisins ne fussent alertés. « Tais-toi, monsieur, moins fort. » Et il se tut, se calma au son seul de ma voix. Il avait compris mes mots et leur nécessité. Il s'approcha du bord où je me tenais et de ses trois langues longues lécha mes mains, s'insinuant entre mes doigts pour jouer et me remercier. Je parvins à le caresser, ce que jamais jusque-là je n'avais fait, en tout cas pas en étant aussi concentrée.
Et donc c'était un extrait du livre que je recommande chaudement. C'est très très différent des autres textes. Hein. C'est vrai que l'entendre, là, j'ai quand même la petite musique de décharge encore en tête. Hein. Tu étais venue nous voir au mois d'octobre, après Céline Minard. Et donc, moi, j'ai eu en plus l'occasion de lire les autres recueils à ce moment-là. On voit ton parcours. Hein, tu me disais quand on était en antenne qu'il y a des phrases que tu as écrites dans ce livre qui étaient des phrases qui étaient là avant.
Oui, des espèces de réinjections de textes ou de livres précédents qui sont venus s'insérer, comme si ce texte concentrait, regroupait, recueillait, était le réceptacle comme ça de certains éléments des précédents. Mais bon, je pense qu'après il y a cette porosité. Interlivre chez pas mal d'auteurs et d'autrices. Mais je ne sais pas si c'est si différent. C'est-à-dire, pour moi, c'est quand même un texte de poète. Ce n'est pas forcément un livre de poésie, mais c'est un livre où le récit, cette espèce de petit conte ou de fable, est tenu non pas tant par l'intrigue, qui est somme toute assez linéaire, hein, et bon, il se passe des choses, hein, il se passe tout le temps des choses, mais qui sont très tenues, contenues par la langue et dans la langue. C'est-à-dire que je l'ai quand même écrit avec un grand souci de musicalité, avec la même précision et obsession du choix des mots que dans une écriture de poème, en fait. Et pour moi, c'est quand même un texte qui appelle l'incarnation, l'oralité, même si il est plus dans la page. Voilà, c'est une narration, mais il s'entend aussi, ce texte. Et c'est peut-être ça qui me fait dire aussi qu'il est du côté du conte.
Ouais, il y a beaucoup d'images aussi, hein, qui naissent, hein, peut-être, mais les précédents recueils aussi. Hein, on pouvait les accompagner d'images assez nettement. Je pense que ce serait un défi d'ailleurs qui sera confié à un bon réalisateur que de faire figurer justement cet hippocampe, la relation. Ce serait assez exceptionnel d'ailleurs. En tout cas, on pose l'intention dans le champ que le réalisateur puisse en faire quelque chose. Si tel est son destin, il y a aussi, il m'a semblé, et c'est pour ça que je pense que ça marche, pour ça que je disais en rigolant, j'ai fait une présentation Biba, sans spoiler les lecteurs qui vont se diriger vers les libraires pour acquérir le livre. C'est chouette quand même, c'est ce qui se passe à la fin, ce que tu dis, ce n'est pas une histoire d'amour, mais on y arrive quand même un petit peu, quoi.
Oui, il y a une sorte de... Il y a une sorte de culbute, en fait. Il y a quelque chose à la fin qui arrive et qui n'est pas prévu, qu'effectivement, je ne peux pas dévoiler. Mais c'est peut-être là que se pose la question vraiment de l'altérité. C'est à la fin. et la question de l'amour et du désir, mais qui se rejoue autrement, qui s'est joué dans le fantasme ou dans l'onirique ou dans... Voilà, mais quelque chose qui pour moi, cette créature est bien réelle. C'est-à-dire que là, il y a aussi des gens qui m'ont dit, mais en fait, peut-être que la narratrice, elle fantasme, peut-être qu'il n'existe pas vraiment ce monsieur, peut-être... Si, il existe vraiment, elle a vraiment cette créature, dans un couscoussier d'abord, puis dans sa baignoire, puis dans la mare de son jardin, parce qu'il grossit, il grossit. Il est vraiment là. Et bon, il se trouve qu'il a un destin que je ne vais pas dévoiler non plus, mais... que cette espèce d'étrangeté, qui parfois confine à l'inquiétante étrangeté, finit par permettre une rencontre dans la réalité.
Est-ce qu'il est la passerelle? Est-ce qu'il fallait passer par là? Est-ce que tu penses qu'il y aurait quand même un peu ce mécanisme-là, comme un germe?
Oui, où il est en tout cas le... il génère une mutation, ou je ne sais pas s'il en est le résultat ou le moteur, mais peut-être c'est aussi un démon, cette chimère qu'il faut affronter. Enfin, je ne sais pas. Il a un peu, il est à la fois adorable et à la fois quand même complètement flippant. Quoi, il y a quelque chose. Il est à la fois excitant, désirable et affreux. Enfin, gluant. Enfin, voilà. Il y a toute cette espèce aussi d'ambivalence et de jonction, de plein de choses contradictoires.
Ouais, c'est pour ça que ça marche diablement bien et merveilleusement bien. On est vraiment dans quelque chose, allez, on y va, d'hybride, qui permet justement de saisir quelque chose qui est si familier, en fin de compte. Et l'effort de la conteuse que tu es, c'est de nous emmener vers ça, de cette attirance, de ce qui nous répugne, de la fascination, de ce qui nous altère. Et on peut faire ce chemin-là grâce à Le Monsieur. Et on va en écouter un second extrait, s'il te plaît.
Monsieur était ma drogue. J'allais à lui, mon souffle devenu trop lourd à porter, obsédé par une seule idée, apaiser la brûlure. Il m'empêchait de couler. Je m'agrippais à sa matière, sa chair, enlaçant ses moignons, saisissant ses oreilles pour rester à flot, mon corps ondulant loin du fond que je redoutais de toucher, de peur de m'y enliser. Lui, avec sa queue, m'entourait, une proie.